Vous ne tarderez pas à savoir pourquoi je vous offre un cadeau d'une telle importance ce matin. Ce n'est qu'une allumette, hein. Si ce matin, je devrais d'abord vous dire bonjour à tous, hein, je ne vous ai pas salué individuellement, hein, excusez-moi. Alors, je suis très content de vous revoir, de vous rencontrer. C'est la deuxième fois que je viens pour le culte, hein. Alors, quand on m'invite une fois, c'est pas exceptionnel peut-être, mais quand on nous invite une deuxième fois, ça change tout. Ça veut dire qu'on nous a pas trop méprisé la première fois. C'est qu'on nous a accepté la première fois, puisqu'il y en a une deuxième. Et j'ai accepté ça en croyant que le Seigneur vous avait conduit et que j'ai tout simplement quelque chose à vous apporter de la part du Seigneur. Si on faisait un petit sondage avec un petit papier et qu'on vous demande de répondre à la question suivante, croyez-vous qu'un pasteur peut avoir une certaine crainte, un certain trac avant de commencer sa prédication? Je ne sais pas ce que vous répondriez. Si en plus on précisait que ce pasteur, il a bien dépassé l'âge de la retraite, donc il a quelques centaines de prédications à son compteur, vous diriez, ben non, il ne doit plus avoir le trac, il ne doit plus avoir peur, pour lui c'est une expérience normale et ordinaire. Je ne sais pas ce que vous répondriez, mais moi je vais vous répondre, c'est vrai. Heureusement, j'ai encore peur, j'ai encore certaines formes de trac avant d'apporter la parole de Dieu. Pourquoi? C'est pas que j'ai peur des gens. Parce que dans nos églises, en général, en Suisse, ils ne sont pas agressifs. Mais dans d'autres pays du monde, c'est différent. Mais la crainte que j'ai très souvent, c'est de me dire, mais est-ce que tu dis ce que les gens ont besoin d'entendre? Parce qu'on peut dire des choses que les gens ont envie d'entendre. C'est très différent. Et un de nos pièges, lorsqu'on annonce la parole de Dieu, c'est de vouloir dire ce qui plaît. Et Dieu ne nous a pas demandé de dire d'abord ce qui plaît, mais d'abord ce qui lui plaît. Et parfois ça dérange un peu. Et le pasteur, il est le premier auditeur de ses prédications, vous le savez bien. Donc quand je vous parle, je m'adresse aussi à moi le même message. Et c'est pour cette raison que parfois j'ai des craintes en disant, Seigneur, mais c'est ma prière, donne-moi la capacité, le discernement pour dire ce qu'il faut dire et pour laisser de côté ce qui est peut-être intéressant, mais ce qui n'a pas sa place dans ce culte, ici, dans ce lieu. Je vais prier brièvement. Seigneur, conduis-nous dans ces instants de méditation. Merci pour ce que nous avons déjà pu te chanter, qui reflète nos convictions, nos espoirs, notre désir de te voir intervenir. Et que ta parole nous trouve réceptifs ce matin. Et combien je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre. Ce n'est pas ce qu'on mange, mais ce qu'on digère. C'est tout simple, mais que cela nous conduise à utiliser intelligemment ta parole ce matin. Amen. Parfois, lorsque nous nous préparons pour une prédication, je veux dire « je », puisque je ne veux pas généraliser, mais ce sont des circonstances, des événements qui nous poussent, qui me pousse parfois à dire, ben oui, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je vis, et je devrais En parler lors d'une prédication, ça pourrait aider aussi d'autres personnes. C'est pas toujours ainsi, mais parfois oui. Et j'avoue honnêtement que ce que je vais vous dire ce matin est dans une certaine mesure inspiré par certains événements que j'ai vécus ces derniers temps. On commence une année, on en a terminé une autre. Cette année-là, elle appartient au passé. On ne peut plus rien y changer. Elle nous a apporté des joies, des peines, des victoires. Eh bien, elle m'a aussi apporté certaines peines, certaines tristesses, mais difficiles à expliquer, mais quand même, elles sont là. Une tristesse, c'est toujours quand on perd un voisin, un ami, une personne de la famille, etc., qui décède. Eh bien oui, l'été dernier, c'est notre voisin de droite qui est décédé, âgé, oui. Peu de jours d'hôpital, et puis on apprend qu'il est décédé. J'ai dû m'habituer à son absence, parce que c'était un spécialiste pour les oiseaux migrateurs, et il avait installé toutes sortes de cages, de jolies cages pour accueillir les martinets sur la façade sud. Alors il les connaissait très bien, il savait quand ils allaient arriver, ce qu'ils allaient faire, il les suivait. Et parfois, depuis ma pelouse, on se parlait comme ça, il était devant sa maison, et puis je lui posais certaines questions sur ces oiseaux. Il pouvait me répondre, mais il n'est plus là. Il ne sera plus là au printemps. Quand les oiseaux vont revenir, il ne sera plus là. Mais une autre expérience faite fin novembre, début décembre, l'année dernière, par des circonstances que je n'avais pas décidées, mais que j'ai acceptées avec joie, avec étonnement, bien, nous nous sommes rendus à l'île La Réunion pour stimuler une église à élargir son cercle d'amis, à porter l'évangile d'une façon qui corresponde aux besoins, tout ça. Et Dieu a merveilleusement répondu à ce projet. On l'avait préparé au mois de février avec mon fils là-bas, et puis on s'est rendu de nouveau en juillet, et on l'a revécu avec une vingtaine de personnes, et Dieu a multiplié nos efforts, c'était génial. Et là-bas, j'ai rencontré l'année dernière, justement, un couple particulier, plus jeune que nous. L'homme, je l'ai rencontré deux fois donc, si on peut dire, dans deux voyages. Il était dans une chaise d'handicapé pour la raison suivante, c'est qu'il était devenu tétraplégique. Et tétraplégique, ça veut dire que tout le corps ne fonctionne plus, à part de petites choses. Jackie, il s'appelait. Jackie Gaillère était dans sa jeunesse, il a fait son service comme parachutiste de l'armée française, un sportif fantastique, il s'est converti et puis il s'est engagé dans la fondation d'une église évangélique dans laquelle nous sommes allés, mais il était aussi un moniteur de sport extraordinaire dans les sports forts qui exigent de gros efforts, l'escalade, la varappe, le canyoning, l'île de la Réunion permet tout ça, est très engagé justement dans le groupe de jeunes de l'église naissante. Et puis un certain samedi soir, alors qu'il animait le groupe de jeunes, il encourageait les jeunes à faire confiance à Dieu. Il était un peu plus âgé qu'eux, hein. Il les encourageait à faire confiance envers contre tout à Dieu. Qu'ils allaient le suivre et que ça valait la peine. Et à la fin de la soirée, un jeune s'est approché de Jackie et lui a dit, si toi il t'arrivait un gros coup dur, est-ce que tu ferais encore confiance à Dieu? Et le samedi soir, Jackie a dit, il a réfléchi, oui, je ferai encore confiance à Dieu. Et le lundi matin, il a eu un accident qui a radicalement changé sa vie. Pas un accident de sport, un accident de travail. Il avait créé une entreprise de bûcheronnage et il était en train de délaguer, de couper des branches sur une pente, et quelque chose a cassé, il est tombé, et il s'est fracassé. Il est tombé dans un fossé bétonné, et à partir de ce moment-là, sa vie n'a plus été la même. Il a fait des mois de coma, il a fait de la rééducation, si on peut parler. Mais rééduquer quoi? Sa tête était parfaite. Tous ses raisonnements, son intelligence, sa mémoire, bon, il a eu un vide dû à l'accident. À un moment, il y a eu un trou. Mais intellectuellement, au point. Marié, deux enfants, adultes. Quand ça lui est arrivé, il avait 46 ans. Alors, il a passé par des périodes de découragement terribles. Imaginez un peu cette situation. Où même sa femme n'en pouvait plus, parce que c'était son mari dont il fallait s'occuper quand il est ressorti de l'hôpital 24 sur 24. Ils ont eu des moments de découragement énorme, pas contre Dieu, mais contre la vie, les circonstances et tout. Et lui se rendait compte qu'il était devenu une charge presque insupportable pour sa femme. Et sa femme avait une vie complètement presque impossible. À un moment donné, cet homme a dit à sa femme, « Mais je voudrais arrêter de vivre, je serais d'accord de mourir, je voudrais bien me faire mourir, mais je ne peux même pas, parce que je ne peux plus faire un mouvement. » Il y a juste, moi que je l'ai rencontré, hein, il y a juste sa main droite qui pouvait faire un petit mouvement comme ça. C'est tout. Mais avec ça, on ne peut pas se suicider. Donc si je ne peux même pas te libérer du problème, si personne ne m'aide, je suis condamné à vivre. C'est dur, hein? Et sa femme, à un moment donné, elle a crisé aussi en disant, mais ma vie devient impossible et tout. Et puis, ils se sont dit des choses violentes, quelques mois, donc, après l'accident. Et puis, d'un coup, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, mais on est stupide. Pourquoi on se dit des choses comme ça? On va continuer de vivre avec Dieu. On va continuer de faire face. On va continuer de se soutenir. C'est ce qu'on a promis lorsqu'on s'est marié. On va le faire. C'est ce qu'ils ont fait. Jackie est devenu prédicateur de son église. Ça veut dire que depuis son domicile jusque devant, il a besoin d'aide, hein? Déjà pour déplacer la chaise juste dans la voiture, venir la décharger et puis traverser l'église, la pousser, se mettre là. Mais il n'est pas devenu un prédicateur superficiel. Il a compris qu'il devait faire des études bibliques. Mais il ne pouvait plus bouger. Et comment les faire? Eh bien, cet homme s'est équipé d'un ordinateur un peu spécial, juste un peu. Et quand je l'ai rencontré en février, j'étais surpris. On a mangé chez eux, on a eu un temps de prière, et puis j'ai vu qu'il avait au milieu du front un confetti argenté, comme ça. Je me suis dit, bon, c'est sa déco, hein. J'avais pas compris. Et puis, à la fin de notre entretien, on a mangé, on a prié, tout ça. Sa femme dit, ben, il fait des études bibliques avec l'Institut biblique de Genève. C'est loin, hein, à 10 000 kilomètres. Il dit, mais comment? Et Jacques me dit, eh ben, par l'ordinateur. Je me suis dit, mais comment il peut piloter un ordinateur? Il n'y a plus un doigt qui bouge. Ah, il me dit, je vais te montrer. Alors il me dit, tu me lèves un petit peu ma main. Il était dans sa chaise. Je lui ai levé. Il a touché un espèce de... comme on n'a pas un curseur là, hein, un stick comme ça, il a tourné sa chaise, il s'est approché dans son salon d'un ordinateur. Il l'a mis en marche, mais il n'a rien pu faire avec les mains. L'ordinateur s'est mis en marche, et puis il l'a piloté avec le confetti qui était au milieu de son front. C'est-à-dire que chaque lettre, il l'écrivait avec son front, à distance, tac, tac, tac. Bon, c'est parce que la persévérance, nous on se plaint des fois de je ne sais tout quoi. Et cet homme a fait ses études comme ça, et qu'il a réussi. Uniquement avec ce confetti au front. Il a tout écrit, ses devoirs et tout. Je l'aimais beaucoup, Jackie, beaucoup. D'ailleurs, il était un des moteurs du projet qu'on a fait en juillet. Et puis, en mi-novembre, 14, On a reçu un message de son pasteur disant « Jackie a été hospitalisé, il est mal, ça va mal. » On a prié pour lui. Et puis un matin, le 1er décembre, il y avait un message, dès que j'ai ouvert mon ordi, un message du pasteur. Il l'avait écrit à 5 heures du matin, le pasteur environ, et il disait « Cette nuit, à 3 heures du matin, Jackie est décédé. » C'est le genre de nouvelle qui vous plonge dans une double émotion. Hein? Vous pouvez comprendre. À la fois, cette personne que vous ne reverrez plus ici-bas, vous êtes triste, puis d'un autre côté, vous êtes profondément en paix. Ça, les chrétiens, ils peuvent le comprendre. En paix, parce que cet homme est parti dans la paix. Les quelques dernières nouvelles que j'ai eues à son sujet, c'est que dans ses 2-3 derniers jours de vie, il a dit « Je me réjouis de m'en aller, je suis en paix avec Dieu. » Quand vous lisez ça, ou que vous entendez ça, ça vous plonge dans une paix extraordinaire. Vous dites « Voilà, un combattant du Seigneur qui a combattu jusqu'au bout. Il a consumé toute sa vie. Et quand, selon le plan de Dieu, il était terminé, Dieu l'a repris à lui. » Et là, vous êtes dans la paix. Mais triste quand même. Eh bien, c'est un peu ça quand même qui m'inspire pour ce que je vais vous dire ce matin. Vous avez reçu une allumette. D'abord, je l'introduis, ce que je vais dire, par quelques références et textes bibliques. Je vais déjà en prendre un dans la lettre de 2 Corinthiens au chapitre 8. Merci de votre patience. 2 Corinthiens 8, de 12 à 15, voilà. En précisant qu'un chrétien n'est pas un fanatique, un chrétien n'est pas un extrémiste. Un chrétien est quelqu'un qui reçoit, par la présence du Saint-Esprit en lui, une capacité d'équilibre, qui dérange parfois, mais qui est extraordinaire. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Je m'arrête là. Je ne vous connais pas, hein, franchement. Une ou deux personnes, on s'est un peu discuté quelques minutes, parfois au téléphone ou comme ça, on ne peut pas dire qu'on se connaît. Peut-être un peu, Jean de Binan, on s'est côtoyé il y a X années, hein, dans le Jura bernois. On se connaît peu. J'imagine, mais excusez-moi si je me trompe, nous avons tous dans notre vie des choses dont on pourrait se passer, matériellement. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre liberté, d'accord, hein. Mais moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, beaucoup de personnes, une large majorité, nous sommes possesseurs, propriétaires de choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. On pourrait nous les enlever, ça irait quand même. Hein? Nous avons peut-être un ou deux meubles de trop. Ben, ils sont là. Nous avons peut-être une voiture plus grande que ce qu'on a besoin. Nous avons peut-être des iPhones, bigophones, smartphones de dernière génération dont on pourrait se passer. Et puis plein de choses. Nous avons peut-être, les dames peuvent avoir, peut-être avoir cette tentation d'avoir un peu trop de paires de chaussures. Hein? Quand je vais rendre visite à mon fils aîné, je dois passer un étage dans la maison où il habite, et puis il y a une place, il y a toutes les chaussures d'une locataire qui sont bien alignés à l'extérieur du logement dans le corridor. Mais elle a au moins 30 paires de chaussures à super haut talent. Moi, je pense que ça fait beaucoup quand même. Hein? Ouais, quoi. Mais je pense qu'elle aime ça, tout simplement. On a trop de choses. Alors, on peut se dire, est-ce qu'il faut se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas vraiment besoin? Je suis pas sûr. Dieu ne cherche pas des fanatiques, mais des gens équilibrés. Et il dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans les circonstances présentes. On pourrait se dire, mais si je me débarrasse de tout, et puis au lieu de dormir sur un lit, je dors sur une natte par terre, ça va aussi, je l'ai eu fait pendant pas mal de temps quand j'étais missionnaire, hein. Je me déplaçais, on dormait, ma foi, on dormait ou on dormait, point. Hein. On pourrait se débarrasser de plein de choses. On n'est pas obligé d'avoir une table puis des chaises même pour manger. Hein. Il y a plein de peuples dans le monde qui mangent en posant le plat par terre, ils s'assiedent autour et puis ils mangent, ça va aussi. Donc vous voyez tout ce qu'on pourrait se débarrasser. Mais je ne crois pas que c'est ça que Dieu nous demande. Il ne demande pas de devenir des extrémistes en disant je me prive de tout pour les autres et puis comme ça je suis bien devant Dieu. Non. Ne vous privez pas, vivez. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Maintenant que j'ai dit cela, je vais prendre quelques citations de Jésus, pratiquement toutes. Alors, je donne la référence, je les ai toutes notées dans la Bible là, mais ce sont des extraits de versets bibliques. Parole de Jésus, Jean chapitre 15, verset 13, où Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ou dans Matthieu 10, verset 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra. » Jean 12, verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra. » Et Jean, chapitre 10, le verset 17, « Le Père m'aime, parole de Jésus, parce que je donne ma vie. » Et Jean 3, 16, « Dieu a donné son Fils unique. » Et alors là, c'est dans les Épîtres, 1 Jean 3, 16, « Il faut être prêt à donner sa vie pour nos frères. » Donner sa vie. Celui qui la conserve la perd. Celui qui aime sa vie la perd. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On en vient à l'allumette. C'est parabolique, hein, ce que je vous dis. Ça a des limites. Et puis si ça vous vexe, excusez-moi, je ne cherche pas à vous gêner. La vie de chacun de nous ressemble à une allumette. Bon, pas forcément dans le style graphique, hein, mais d'autres choses. Une allumette, ça sert à quoi? Eh bien, à mettre le feu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une allumette? Eh bien, on peut allumer un feu pour se réchauffer. On peut allumer un feu pour cuire un repas. On peut l'allumer pour produire un peu de lumière pendant quelques secondes. On peut allumer une bougie. On peut allumer une cigarette. On peut allumer d'autres allumettes. On peut mettre le feu à une forêt, à une maison, à un pays, avec une allumette. Mais lorsque l'allumette a fait son travail, elle n'existe plus. Elle est consumée. Vous me suivez? Ça, c'est pas compliqué, hein? Lorsqu'elle a fait son travail, elle n'existe plus, elle est consumée. Une allumette trouve son sens, son utilité, en se laissant mourir, en se donnant, en se laissant consumer. Pour allumer une allumette, il faut un frottement. Ou alors qu'une source de chaleur la vise. Une allumette, c'est presque rien, mais c'est très puissant, une allumette. C'est extrêmement puissant, une allumette. L'allumette que vous avez là, dans votre main, mais vous pourriez déclencher des catastrophes avec. Vous pouvez aussi faire de très bonnes choses avec. Mais c'est toujours une allumette, c'est la même allumette. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais notre vie, c'est un peu la même chose. Notre vie, elle est destinée à se consumer. Il y en a qui veulent la conserver. Surtout, il faut pas me déranger, diront certains. Je veux mon confort, je veux ma vie, je veux être bien dans mon corps, dans mes sens, dans mes émotions. Il faut que rien ne me dérange. Et on peut faire toutes sortes de cours pour se relaxer, pour être bien. Et on ne veut pas entendre de bruit discordant. On se prive de tout. On ne veut pas toucher à notre vie. On veut la conserver. On ne veut pas qu'elle prenne feu. Parce qu'on veut la garder en parfait état, le plus longtemps possible. Et Jésus nous dit exactement le contraire. Celui qui veut conserver sa vie, il la perd. Et celui qui la perd, il la gagne. Celui qui donne sa vie, il la retrouve. On trouverait beaucoup de textes bibliques qui soutiennent cette affirmation. Nous sommes destinés, en tant que chrétiens, attachés à Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, à donner notre vie pour les autres. Un chrétien n'est pas un chrétien s'il veut conserver sa vie pour lui. Ça ne joue pas. On n'est pas destiné à ça. Nous sommes destinés à nous consumer pour les autres, à nous donner pour les autres. Et quand je pense à mon ami Jackie, pour moi, il est une démonstration d'une force incroyable de consumer sa vie jusqu'au bout pour les autres. Même lorsqu'il ne pouvait plus bouger, il donnait encore sa vie. Il témoignait encore. Il prêchait encore. Il était encore. Mais il ne pouvait rien faire tout seul. Il avait besoin de sa femme, de personne pour pousser sa chaise à déplacer, pousser dans la voiture. Il ne pouvait pas manger tout seul. Absolument pas. Il ne pouvait pas boire une gorgée tout seul. Ça, il ne pouvait pas faire. Mais même son accident, il a vécu dans cette chaise 11 ans. Hein, puisqu'il est mort à l'âge de 58 ans. Sa vie, il l'a consumée jusqu'au bout pour Jésus. Il aurait pu dire, maintenant je ne peux plus rien faire, c'est fini. Il aurait pu dire ça il y a 10 ans. Mais il n'a pas dit ça. Il a compris qu'avec ce qu'il était encore, il pouvait encore, aux yeux de Dieu, être quelqu'un qui pouvait donner sa vie. Et vous imaginez bien que pour sa femme, Véronique, alors pour elle c'était aussi une démonstration énorme de donner sa vie pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence son mari totalement handicapé. L'humilité, c'est de dire « je suis bien peu de choses ». C'est vrai. Mais la fausse humilité, c'est de dire « je ne suis rien, je ne peux rien faire, je n'ai pas de valeur ». Ou alors de dire, il y a tellement de gens plus doués que moi, laissons-les faire. La fausse humilité, c'est de ne rien entreprendre pour éviter un échec, un refus, des oppositions. C'est la fausse humilité. Encore des gens comme ça. Oh, moi je ne suis pas aussi doué que l'autre. Oh, moi je ne sais pas faire ce que les autres font. Alors, je les laisse faire. Et puis en même temps, si j'essaye quelque chose, si j'ai un échec, ben j'aurai l'air bête, hein. Ils vont se moquer de moi. Ça, c'est la fausse humilité. La vraie humilité, c'est de reconnaître que si on s'approche de Dieu, notre vie trouve son sens. Nous avons été créés, nous dit la parole de Dieu, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça va loin, hein. On existe pour quelque chose et pour quelqu'un. Mais notre existence n'est pas le fruit du hasard. En aucun cas. La vraie humilité, c'est de prendre au mot la parole de Dieu et de donner sa vie pour ses amis. Bon, quand on dit ça, certains disent, oh là là, qu'est-ce que ça peut encore signifier? Pour certains, en effet, ça signifie, un peu à l'extrême, de se rendre en Iran, en Irak, en ce moment, en Afghanistan, pour essayer de vivre l'évangile, pour le vivre, pour être au secours des gens qui sont en grosses difficultés, là ils prennent le risque vraiment de donner leur vie. Et en ce moment, peut-être même au moment où je vous parle, plusieurs chrétiens sont en train de donner leur vie, concrètement. Ça va être fini à la fin de ce dimanche, ils seront morts, parce qu'ils se seront sacrifiés pour essayer de sauver quelqu'un, d'aider quelqu'un. Mais il ne faut pas aller dans des cas forcément si extrêmes. Donner sa vie pour ses amis, ça peut être peut-être de consacrer son temps pour une personne dans sa vie. Les livres qu'on lit, les émissions TV, radio chrétienne, nous mettent généralement en évidence des gens qui ont fait des grandes choses, mais rarement des gens qui ont eu une consécration discrète et cachée. Ben ouais, si c'est caché, comment on peut le diffuser, hein? Mais combien de chrétiens sont en train de donner leur vie, leurs années, leurs forces pour aider une personne handicapée, peut-être malade, une personne qui est privée de biens, une personne qui est seule? À chaque âge, dans toutes les circonstances, il y a des occasions de donner. Mais même quand on ne peut plus faire grand-chose physiquement, combien de chrétiens ont encore donné les dernières années de leur vie à prier, tout simplement, à donner de leur temps pour les autres? Donc il ne s'agit pas de chercher l'exploit, l'extraordinaire. C'est secondaire, ça, absolument. Je le dis parfois dans mes prédications, ce qui m'a une fois vraiment remis à l'heure à ce sujet-là, très jeune. Bon, je me suis converti très jeune, 9 ans. Et pour moi, ça représentait un changement de vie radical. Je n'avais pas été un bandit avant. Mais me convertir à Jésus-Christ, ça veut dire qu'il était devenu mon ami qui me conduisait. À 17-18 ans, j'ai pensé que dans mon village où il y avait un culte peut-être tous les 2-3 semaines, hein, dans la merveilleuse petite chapelle, mais il y avait pas d'études bibliques, rien du tout. Et j'ai décidé que pour la population de mon village, je devais offrir pratiquement chaque semaine une rencontre de prière et d'études bibliques. On dit, où est-ce que je vais faire ça? Ben, j'ai trouvé tout simplement que c'est dans ma chambre que ça pouvait se passer. Alors j'ai fait connaître le projet de mon village, je ne sais plus, par des papiers, je ne sais quoi. Puis j'ai dit, tous les mercredis soirs, je crois, dans ma chambre, à 8h, études bibliques et prières pour les gens de mon village. Ben, il n'a que sont venus, bien sûr. Tous des femmes sont venues, c'est vrai. Pas des jeunes, hein. Elles avaient, j'imagine, entre 40 et 55 ans. Alors moi, je me retrouvais là, jeune, avec des personnes qui n'avaient pas l'habitude de prier. Parce que dans l'église protestante, on n'encourage pas les gens à prier, enfin pas dans toutes, hein, à prier publiquement comme ça. Non, c'est le pasteur qui fait tout le boulot, hein. Et puis j'étais là, jeune, et puis je disais, maintenant c'est la réunion de prière, l'étude biblique, mais même l'étude biblique, elles n'avaient pas l'habitude. Elles allaient à l'église, à la chapelle, respectueusement, elles écoutaient, et puis c'était bon. Et puis voilà, tout à coup, je bousculais tout, mais elles venaient quand même, elles n'étaient pas obligées. Alors, moi, dans mon zèle de jeune homme, je les encourageais à être actives, à prier, à intervenir, à agir. Et il y avait une dame célibataire qui était là, qui venait chaque fois. Et puis, quand il y a eu le temps de prière et tout ça, et puis que j'ai encouragé les gens à faire pour les autres certaines choses, elle s'appelait Olga. Alors la journée, Olga, tous les jours, elle allait travailler à l'usine, à Taban. Et je la voyais passer devant notre maison à pied entre midi et 1h, le soir, le matin, une vie dure. Elle m'a dit, tu vois, je ne peux pas faire plus, parce que je m'occupe de Shatsu. Un drôle de nom, hein. C'est ceux qui savent un peu le Berndutsch. Chatsali, ça vous dit rien? Chérie, moi, je dois m'occuper de Shatsu. Qui était Shatsu? C'était son frère qui était idiot. Mais complètement idiot. Et qui était à la maison. Et dont elle s'occupait. Donc elle a donné sa vie pour Shatsu. Shatsu, il faisait peur, hein. Il ne voit déjà pas parler normalement, c'est une espèce de hurlement, je ne sais tout quoi. Quand j'allais distribuer le journal d'Armée du Salut, j'avais toujours peur dans ce couloir-là de le rencontrer. Mais elle a donné sa vie pour Chatsou. Donc il dit, je ne peux pas faire beaucoup plus. Ça m'a remis à l'heure, hein. Donner sa vie pour les autres. C'est peut-être discrètement, parce que ça ne se voyait pas trop, hein, tout ça. Elle ne le prêchait pas, elle ne le disait pas, elle le faisait, c'est tout. J'ai compris que de donner sa vie, ce n'est pas forcément des grands exploits. Certains en font, c'est vrai. Et puis d'autres, pas. Dans mon église, à Tramelan, maintenant je suis à la retraite, il y a des gens à la retraite, mais leur travail pour les autres, c'est de livrer les repas à domicile pour des personnes malades ou âgées. C'est un service assez discret finalement. Ils vont à telle heure, devant l'hôtel-restaurant qui prépare les repas, ils prennent les assiettes, là, bien préparées avec le couvert qu'il faut, ils mettent dans la voiture, ils partent, ils livrent, ils reprennent l'ancienne, ils font ça presque tous les jours de la semaine. Service discret, combien utile, donner sa vie pour les autres. Dieu nous demande de discerner comment consumer notre vie, notre allumette. Pour qui la consumer? Où la consumer? À partir de quand la consumer? Et puis quand ça s'arrête? Et maintenant que je suis à la retraite, c'est-à-dire que j'ai plus d'employeur vraiment, hein? Mais j'ai quand même fait des prolongations de 3 ans par circonstance, parce que 2 églises me l'ont demandé. Mais maintenant, c'est plus une obligation. Donc je pourrais dire, depuis le mois d'août, je suis plus obligé de rien faire. Donc j'étais pas obligé de venir ici ce matin. Hein? J'ai accepté, avec plaisir. Mais j'aurais pu me dire, et parfois on peut se dire quand on arrive à la retraite, il y en a plusieurs ici d'entre vous, je pense, qui sont à la retraite, mais maintenant j'ai fait tout ce que je devais, fini. C'est pas certain. Peut-être que notre vie n'est pas encore consumée jusqu'au bout. On ne peut plus faire maintenant, à 65, 70, 75 ans, ce qu'on a fait il y a 20, 30, 40 ans. Mais il y a encore quelque chose à brûler, il y a encore quelque chose à consommer, il y a encore quelque chose à faire. C'est autrement que ça va se consommer, c'est autrement que ça va continuer. Mais on ne peut pas trop vite dire, maintenant ça suffit, j'arrête. Notre relation avec Dieu, notre service pour Dieu, notre obéissance à Dieu, elle ne s'arrête pas à l'âge AVS. Mais ça commence aussi. Or là, j'ai le contraire. Il y en a qui disent, tant que je suis jeune, je fais ce que je veux, puis un jour, j'aime bien me mettre à réfléchir à ce que je peux faire pour Dieu. Mais ça, c'est radicalement aussi faux. C'est un privilège extraordinaire de pouvoir consumer sa vie pour les autres dès sa jeunesse, dès son enfance. C'est jamais trop tôt. Jamais. On peut commencer d'être ouvert aux autres, mais dès qu'on... Est-ce qu'il y a un âge? Quand je vois, on a 10 petits-enfants, hein? Mais le 9e, Ben, qu'est-ce qu'il a? 2 ans. À table, l'autre jour, chez nous, ils étaient là. Et je dis, qui c'est qui va prier? Moi. Il dit, Ben. Alors, tu peux prier, Ben. Alors, d'abord, j'ai pas très bien compris. Il est quand même petit, hein? Mais il est resté tout tranquille. Il a dit merci Jésus pour aujourd'hui, merci pour qu'on peut manger, amen. Quelque chose comme ça. Il a fait quelque chose d'extraordinaire ce petit gars. Moi ça me touche, hein. On n'est jamais trop petit pour commencer d'être utile aux autres. Son petit devoir librement, hein. Personne n'a obligé. Il a dit je veux prier. Puis il a prié 2-3 phrases. Parfois, on a eu un petit enfant qui priait, on comprenait que le mot « Amen » à la fin. Mais ça fait rien. Il s'engageait, il apprenait. Les petits-enfants peuvent aussi nous donner des leçons de vie extraordinaires. On n'est jamais trop jeune. Je ne sais pas si vous l'avez dit ici, quand je me suis fait reprendre. Oui, c'était un de mes billets religieux. Hein, dans l'Express, l'Impartial, hein, je raconte des petites histoires comme ça, sur un fond biblique. Et puis... Il y en a plus de 100 d'ailleurs qu'ils ont diffusé. Oh, c'est une chose que j'aimerais vous dire. Si vous avez envie que ça continue, eh bien, priez pour. C'est pas le journal le problème, c'est moi. Ils n'ont pas décidé de plus en mettre, mais si j'en écris plus, ils peuvent plus en écrire. Alors, pensez à moi en 2015 pour que je continue d'écrire des billets. Hein? Mais voilà qu'on était devant la terrasse, en été, on mangeait, il y avait quelques-uns de nos petits-enfants, et puis j'ai eu une ou deux paroles un peu brusques avec ma femme, dont je ne suis pas fier. C'était pas l'engueuler, hein, mais un peu brusque comme ça. C'est pas bien. Et une de nos petites filles, qui avait 6 ans à ce moment-là, elle m'a regardé, et elle m'a dit, « Grand-papa, va dans ta chambre un peu réfléchir. » Et c'était dit sur un ton qui n'ouvre aucun espace à la négociation. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Elle avait parfaitement raison. Ce qu'elle a dit, c'était juste. Elle n'avait que 6 ans. Elle m'a dit, papa, grand-papa, grand-papa, va dans ta chambre un peu réfléchir. On n'est pas trop jeune. Je trouve que c'est beau. Moi j'ai été choqué, hein, ma femme aussi je crois, hein. On a bien ri, mais j'ai dit c'est vrai, je ne peux plus vraiment dire si je me suis retiré dans ma chambre, peut-être bien que je suis parti un peu parce qu'elle a quand même raison, mais un enfant peut servir Dieu, un enfant peut consumer déjà sa vie pour Dieu. Et ce que j'aimerais vous laisser ce matin, eh bien ne vous dites pas je suis trop peu de choses. Je laisse aux autres le soin de tout faire. Moi, j'ai pas fait de grosses études. Moi, j'ai pas des grosses capacités. Moi, j'ai pas ça. Et moi, je sais pas faire ça. Et moi, je veux pas. Non. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire et des choses que je ne peux pas faire. Mais il y a quelque chose que Dieu a préparé pour vous, pour chacun, chacune de vous. Ça peut être dans des milieux très différents. Quand je vois les jeunes, je sais pas, vous aimez le foot? Ah bon? Hein? Moi aussi d'ailleurs, hein? À fond. J'ai jamais fait partie d'un club de championnat, mais en équipe corporative dans les entreprises, oui. J'ai beaucoup joué comme centre-avant et comme capitaine d'équipe. Et puis, ces dernières années, j'ai remonté une ou deux équipes de footballeurs chrétiens, où on est allé faire des tournois au Brésil, puis en Afrique, et je fonctionnais comme le président du club. Hein? Et puis je jouais, quand il y avait un peu trop de blessés, je jouais encore un peu. Mais j'ai rencontré des jeunes qui étaient doués au football, vraiment, des chrétiens. Ils disaient, mais moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu? Moi je suis un bon footballeur, je suis chrétien, mais à quoi ça peut servir? Et je disais, attends, mon gars, tu te trompes complètement. Si tu es doué pour le football, eh bien c'est une capacité que tu peux utiliser pour communiquer ta foi, ta vie, tes choses avec plein de gens que moi ou qu'un autre ne peut pas faire. De comment? Ben, on va voir. J'ai emmené des joueurs chrétiens, de bons footballeurs, à l'autre bout du monde. Ils ont découvert qu'au travers de leur capacité sportive, ils communiquaient l'évangile de façon extraordinaire. Il y a juste quelques années, à Noël, Nouvel An, on était en Côte d'Ivoire, une municipalité nous a prêté le stade officiel de foot. Les arbitres de Ligue Nationale A, pour arbitrer nos matchs, à la mi-temps, le speaker du stade demandait à un de nos joueurs de monter à la tribune et puis l'interrogeait sur ses convictions. C'est extraordinaire, hein? Donc le jeu disait, voilà qui je suis, voilà comment je joue, voilà ce que je crois. C'était extraordinaire, on touchait des centaines. Dans ces jours-là, on a touché des milliers de personnes. Quand ces gars-là ils reviennent, ils disent, jamais pensé que parce que je suis footballeur, ça pourrait servir à quelque chose. Mais toutes nos capacités peuvent servir à quelque chose. Pas seulement quand on chante à la chorale. La personne qui a préparé ici la table pour la scène, elle a effectué, je ne sais pas qui c'est, hein, mais elle a effectué un service pour Dieu, pour les autres. Elle a donné un peu d'elle-même pour que ça se passe. La personne qui était là pour envoyer les textes, elle a fait quelque chose. Tous nos petits services sont des manières de nous donner pour les autres. Et j'aimerais vous encourager en 2015 à réfléchir comment vous pouvez continuer avec joie de consumer votre vie pour Dieu, tout simplement. Mais ce que je vous demande là, parce que c'est une demande hein, que je vous fais, mais je la fais aussi à moi, parce que je dois aussi moi discerner maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi Seigneur, maintenant que je ne suis plus obligé, d'aller à l'église tous les dimanches. Maintenant que je suis plus obligé de prêcher tous les dimanches. Maintenant que je suis plus obligé d'avoir des séances de conseil, d'anciens et de tout. Je dois discerner tout à nouveau, mais Seigneur, en 2015, où et comment veux-tu que je continue de consumer ma vie? Mais je suis pas seul, je suis marié. Donc c'est une question que je dois me poser, qu'on se pose avec ma femme. Comment est-ce qu'on va continuer? Parce qu'il y a une suite. C'est pas encore la fin. Ça peut l'être dans une heure. D'accord, c'est l'affaire de Dieu, peu de problème. Mais nous avons besoin de nous interroger. Et si Dieu nous demande quelque chose, il ne faut pas dire oh, « je suis trop vieux, je suis trop peu, je suis trop… » Non. Devant Dieu, ça ne marche pas ce genre d'argument. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Certains le savent. Depuis ma jeunesse, je fais du théâtre. Je suis un acteur de théâtre, amateur, chrétien. J'ai écrit plus de 30 spectacles qu'on a joués dans plein d'endroits. Je sais jouer jusqu'à un certain point. Je sais apprendre des répliques, je sais me déplacer et tout. Mais ma mémoire, je ne veux pas dire qu'elle est perdue. Mais j'ai moins envie d'apprendre par cœur des longs rôles. Mais j'ai trouvé une combine qui correspond bien à mon âge. C'est de jouer la statue vivante dans la rue. Vous savez ce que c'est, hein? Vous prenez un petit déguisement, vous mettez sur un petit podium dans la rue où il y a des gens qui passent, vous ne bougez pas pendant une heure et demie. Et puis les gens qui passent, eh bien, ils vous donnent de l'argent. Ben, j'ai pas besoin d'argent pour moi, hein, ça va. Mais j'ai besoin d'argent pour soutenir des projets. Et comme j'ai pas envie de faire des appels, pas possible, eh bien, je mets une petite pancarte devant moi. Et puis je dis, si vous voulez donner, vous donnez, merci. Et moi, je bouge pas. Donc, je peux pas me tromper de réplique, vous êtes d'accord. J'ai fait ça il y a quelques jours, juste avant Noël. À 200 mètres de mon église à Tramelan, devant la Migros, avec la permission de la gérante, je me suis mis debout, je me suis déguisé comme un berger de Bethléem, avec la canne et tout ce qu'il fallait, ma femme m'a préparé les habits qu'il fallait, et puis, quel que soit le temps, hein, d'abord il pleuvait le vendredi, puis le samedi il faisait 2 degrés, mais je suis resté tranquille, puis les gens ils ont donné. Et puis c'était écrit, pour offrir un repas de Noël à 10 enfants orphelins en Côte d'Ivoire. Ils exigent, je les connais, je connais les parents. Les gens donnaient, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Ben, je suis resté tranquille, c'est tout. Je n'ai pas bougé. On peut ne pas bouger. Bon, ça peut durer au bout d'une heure, hein. Une heure et demie, c'est aussi un peu dur, ça ne fait rien. Mais c'est extraordinaire. Et on a immédiatement envoyé l'argent récolté en Côte d'Ivoire par un système bancaire ultra rapide. Et puis j'ai eu l'autre matin, le jour après Noël, un téléphone, 7-8 heures du matin, du papa, du couple, qui accueillait ses 10 enfants et qui s'en occupait. La récompense, on l'avait mis en pleine figure, je vous assure. Cet homme disait, il est plus jeune que moi, hein, il a 46 ans, je crois. Il disait, oh, si vous saviez, parce que quand il est tellement content et qu'il veut vraiment me faire des éloges, il me vouvoie. Bon, hein. Oh, si vous voyez, chef Niepa, c'est mon nom africain, ce qui s'est passé à Noël, on pourra jamais vous dire, on peut jamais tout vous expliquer, mais ça a été une fête incroyable pour tous nos orphelins. On a pu leur donner à manger, ma femme a pu leur préparer à manger, on a pu leur offrir quelques habits. Important, hein, quand on s'occupe d'enfants orphelins. On a pu faire une fête, vous n'avez pas idée. Tout le monde était dans la joie. On a dansé de joie. Parce que les enfants, ils ont entre 1 an et 15 ans. Hein? On a fait, c'était merveilleux. Parce que vous nous avez aidés. J'ai dit comment on avait fait. Comment on avait trouvé l'argent. Et puis après, il m'a dit, je vous passe ma femme. Elle a aussi des choses à vous dire. Alors, il m'a passé sa femme. Que je vous dise aussi. Lui, il m'a téléphoné quelques secondes. Puis après, il m'a dit, il faut me rappeler. Parce que financièrement, ça fait toute la différence. Hein? Alors je l'ai rappelé. Et puis sa femme me dit, oh chef Niepa, vous ne saurez jamais ce que vous avez créé ici. La joie que vous avez créée. Les derniers jours avant Noël, mon mari et moi, on priait, on suppliait Dieu. Mais Dieu fait un miracle, pour qu'on ait quelque chose à mettre sur la table à Noël, parce qu'on n'a rien. Et même ces derniers jours, on n'avait plus le moindre sou pour acheter de la poudre de lait pour les enfants, pour les bébés. On était à zéro, zéro. Et on dit, mais Seigneur, Noël arrive. C'est une fête quand même. Et puis nous, on n'a rien. Mais Seigneur, il faut que tu agisses. Et à ce moment-là, sans le savoir tout ça, hein, j'ai téléphoné en Côte d'Ivoire. Juste après que j'ai fait le berger, là, hein, j'ai dit, voilà, j'ai envoyé de l'argent, voilà le code, vous pouvez le retirer. Et cette femme, quand elle avait décroché le téléphone, son mari n'était pas là, mais j'ai cru qu'elle faisait une crise cardiaque. Hein. Elle dit, non, 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 c'est pas possible. Elle bondissait, elle ne peut presque plus tenir son téléphone. Et puis, elle hurlait tellement sa joie qu'autour d'elle, les enfants qui étaient par là, ils se sont mis à dire, il s'est passé quelque chose, hein. Mais ils ont compris que c'était une belle chose. Vous voyez, vous pouvez créer, vous pouvez donner de la joie, vous pouvez vous consumer en faisant peu de choses. Je dis pas ça pour me vanter, hein, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Me dire, mais avec peu de choses, sans bouger, sans parler, vous pouvez réaliser pour certains comme des miracles. Hein. Peut-être c'est une autre idée que Dieu va vous donner, mais ne vous dites pas, je suis si peu de choses, je peux rien faire. Aux yeux de Dieu, vous êtes d'une très grande valeur. Je termine en priant avec vous. Père, notre Père, c'est ton Fils Jésus-Christ venu pour nous chercher, pour nous sauver, pour changer le cours de notre vie éternelle. Notre Père, tu nous as demandé, tu attends de nous que nous donnions notre vie. Eh bien Seigneur, donne-nous cette capacité de discerner dans nos circonstances présentes, ou comment nous devons, avec joie, nous laisser consumer pour les autres. Et nous savons bien, si nous prenons l'image qu'une fois qu'on est consumé à la fin de notre vie, même il ne reste plus rien de nous. Notre âme, notre esprit, que personne ne peut détruire, mais le reste, c'est destiné à retourner à la poussière. Bien Seigneur, préserve-nous d'être égoïstes et donne-nous la joie, une immense joie de nous donner pour les autres et de nous donner pour les autres jusqu'au bout de ce que nous pouvons donner. Père, ça, c'est une grâce qu'on te demande, mais nous croyons que tu vas nous exaucer parce que c'est selon ta parole. Amen. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Que Dieu vous donne une année heureuse et bénie. C'est sa volonté. Amen.